Journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nouvelle plutôt bonne sur le front du chômage, en baisse de 0,6% au mois d'avril. Le gouvernement reste, lui, en difficulté face à la CGT qui menace d'entraîner les centrales nucléaires dans sa stratégie de blocage. Nous ferons le point avec David Ravier. Et puis nous reviendrons sur le cafouillage à propos de l'article 2 de la loi travail avec Stéphane Robert. Moscou libère la pilote ukrainienne Nadia Savchenko en échange de deux agents russes. Elle est accueillie comme une star à Kiev. Nous verrons pourquoi Vladimir Poutine agit de la sorte avec Marc Crépin dans un instant. Et puis en Israël, l'ultranationaliste Lieberman va prendre le poste du ministère de la Défense. Nous serons sur place avec Étienne Monin, 18h20 du Grain à Moudre, avec vous Hervé Gardette.
Convergence des droits sociaux vers le bas ou vers le haut? Nous poserons la question à Luc Berry, Jean-Claude Barbier et Grégoire Leclerc.
A tout à l'heure. Tout comme nous avons récupéré Nadia, nous récupérerons le Donbass et la Crimée. Voilà les premiers mots du président ukrainien saluant le retour d'une héroïne nationale tout juste libérée par Vladimir Poutine. Nadia Savchenko, la pilote ukrainienne condamnée à 22 ans de prison et incarcérée depuis 2 années maintenant. Elle vient d'être graciée par le tsar du Kremlin. Un avion venu de Kiev a atterri en Russie, dans la région de Rostov, pour emporter la pilote vers sa terre natale. En échange, ce sont deux Russes qui, eux, ont été libérés des prisons ukrainiennes. Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir.
Vous êtes à Moscou. Alors il faut rappeler bien sûr le contexte de guerre larvée entre Ukrainiens et Russes après l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine et son homologue à Kiev, le président Porochenko, évoquaient cette hypothèse d'un échange de prisonniers depuis déjà plusieurs semaines. Mais la libération d'aujourd'hui crée quand même la surprise. Marc, alors pourquoi ce geste du président Poutine envers une détenue qui vient d'être délibérément condamnée à une peine tout de même très lourde ?
Oui, effectivement, on attendait cette libération, mais vous savez, il fallait d'abord juridiquement que les trois prisonniers aient commencé à purger leur peine. Pour l'expliquer, il y a d'abord une action diplomatique qui a été décisive. Souvenez-vous, alors que la guerre du Donbass avait fait plus de 9000 morts et déplacé 1,5 million de personnes, Paris et Berlin étaient intervenus en février 2015 dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie et qui encadre les relations de Moscou et de Kiev. Cela avait d'abord donné les accords de Minsk. Cette action diplomatique, alors c'est manifesté de nouveau il y a 48 heures, Vladimir Poutine et Petro Porochenko, au cours d'une conférence téléphonique avec François Hollande et Angela Merkel, ont accepté enfin de libérer Savchenko et les deux militaires russes. Pourtant, la pilote ukrainienne avait été lourdement condamnée le 22 mars pour sa responsabilité prétendue dans la mort de deux journalistes russes victimes d'un obus ukrainien. Détail insolite, la version russe, elle arrive du Kremlin bien sûr, est légèrement différente ce soir. Selon le service de presse de Vladimir Poutine, Nadia Savchenko a été libérée parce que les familles des deux journalistes tués dans les combats en ont fait la demande à Vladimir Poutine, information sans doute à destination de l'opinion russe. Quant aux deux militaires, ils avaient confirmé eux-mêmes qu'ils appartenaient au service de renseignement de l'armée, le GRU. C'est donc un échange nécessaire, celui d'une héroïne pour Kiev, une Jeanne d'Arc, dit-on, contre deux officiers de valeur pour Moscou, histoire d'apaiser les deux parties.
Merci Marc Crépin en direct donc de Moscou. Et puis l'Union européenne salue une bonne nouvelle longtemps attendue. À l'étranger, cette double offensive contre Daesh en Irak où le régime tente de reprendre la ville de Fallujah située à 50 km seulement de Bagdad. Et puis en Syrie même, la contre-offensive a débuté dans la région de Raqqa à moins d'une centaine de kilomètres de la frontière turque. Raqqa est considérée comme la capitale de Daesh en Syrie. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Ce sont des forces qu'on nomme arabo-kurdes qui se battent en ce moment contre les djihadistes.
Oui, les combattants qui attaquent l'État islamique sur le nord de Raqqa sont affiliés à un regroupement constitué cet automne, en large part par les Américains, et dénommé les Forces démocratiques syriennes. Un regroupement très largement dominé par les milices kurdes des YPG, celles qui ont défendu et libéré Kobani en 2014, celles qui ont déjà repris à l'État islamique les plus vastes portions de territoire syrien dans le nord du pays, le long de la frontière turque. Adjointes à la milice kurde, on trouve également des brigades de combattants assyriens, c'est-à-dire chrétiens, des brigades turcomanes ou arabes sunnites, mais laïques, et des forces tribales également. Les derniers à avoir rejoint ces forces démocratiques syriennes, c'était il y a moins d'une semaine, sont les 225 hommes de la tribu d'Al-Shaït, venus de la province de Deir ez-Zor, au sud-est de celle de Raqqa. Le but de ce regroupement de forces, et surtout de cette appellation neuve de forces démocratiques syriennes, c'est de rendre moins apparent le fait que les Kurdes, ils sont ultra-majoritaires. De faire en sorte de pouvoir attaquer les positions de l'État islamique avec des combattants aguerris, les Kurdes, mais dans les endroits de Syrie où les Kurdes ne sont pas majoritaires et où leurs miliciens risquent d'être particulièrement mal accueillis par la population arabe sunnite. C'est le cas de Raqqa et de la plupart des villes et villages aujourd'hui contrôlés par l'État islamique en Syrie.
Merci Eric Biegala. Une tête tranchée par un drone américain, en voilà une qui surgit immédiatement. Les talibans viennent de se doter d'un nouveau leader, le mollah Aïbatullah, un homme de 50 ans, ancien bras droit du mollah Mansour, tout juste éliminé lui par les Américains. Plutôt discret, présenté comme un érudit, il a été chargé des questions judiciaires à l'époque du régime taliban. Il aura comme adjoint ses deux rivaux qui se disputaient sa place de chef, le fils aîné du mollah Omar et le patron du réseau terroriste Haqqani. Les talibans restent très divisés en ce moment sur l'opportunité d'ouvrir ou non un dialogue avec Kaboul, avec Islamabad et avec Washington. En Israël, comme prévu, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman devrait faire son entrée dans le gouvernement Netanyahou. Il prendrait le poste très sensible du ministre de la Défense. Le chef du gouvernement israélien a promis de continuer, lui, à agir de façon responsable et à œuvrer pour la paix. Bonsoir Étienne Monin, vous êtes à Jérusalem.
Bonsoir.
C'est tout de même un discours qu'on peut qualifier d'un peu contradictoire de la part de Benjamin Netanyahou, qui forme en ce moment le cabinet le plus à droite, dit-on, de l'histoire d'Israël.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsqu'ils se sont exprimés devant la presse tout à l'heure, les deux hommes ont fait une partie de leur discours en anglais, avec visiblement le souci de s'adresser à la communauté internationale. Avigdor Lieberman est tout sauf un nouveau venu en politique. Il a déjà eu le poste des affaires étrangères au moment des pourparlers avec les Palestiniens sous l'égide des États-Unis, mais plusieurs proches expliquent qu'il était à l'époque borduré par Benjamin Netanyahou. La coalition était alors ouverte au centre-gauche et on parle aujourd'hui du ministère clé de la Défense. Avigdor Lieberman aura à gérer la vague de violence côté palestinien qui n'est pas totalement retombée. Il a dans son portefeuille l'administration des territoires occupés et la gestion des tensions avec le Hamas qui ont donné lieu à une confrontation limitée mais directe au début du mois. La défense, sa ligne politique vient également heurter les positions de l'état-major. Le futur ministre de la Défense a critiqué la mollesse à son goût de la réponse apportée pendant la dernière vague d'attaques palestiniennes et il a manifesté devant une caserne pour dénoncer les poursuites engagées par l'armée contre un soldat qui était soupçonné d'avoir abattu de sang-froid un Palestinien blessé après avoir mené une attaque. Les réactions côté palestinien sont d'ores et déjà hostiles. L'Égypte n'apprécie pas Avigdor Lieberman. Benjamin Netanyahou entre dans une période qui remet le processus de paix sur le devant de la scène et il le fait en unifiant une droite idéologique et sécuritaire peu portée sur les concessions.
Merci beaucoup Étienne Monin, en direct de Jérusalem. Et côté palestinien, la direction de l'OLP en Cisjordanie parle d'une vraie menace à présent pour la stabilité de la région. On part maintenant pour l'Égypte qui vient d'expulser un journaliste français, Rémi Pigaglio, qui travaille pour La Croix et pour RTL, qui était en poste depuis près de 2 ans au Caire. De retour d'un séjour en France, il a été arrêté pendant une trentaine d'heures avant de devoir reprendre un avion immédiatement pour Paris. François Hume Ferkataji, vous êtes au Caire, où cette nouvelle a semé la consternation sans doute chez les correspondants étrangers. Sait-on pourquoi ce journaliste vient d'être expulsé ?
Eh bien non, aucune raison n'a été apportée par les autorités égyptiennes, mais de sources proches du dossier, on sait que ce sont les renseignements de la sécurité nationale qui ont insisté pour refouler Rémi Pigaglio du territoire. On sait qu'en Égypte, les journalistes sont surveillés, écoutés, suivis. Il se peut qu'un des sujets sur lequel travaillait ce journaliste de La Croix ait dérangé. Impossible de le savoir, toujours est-il que cette affaire est arrivée en pleine visite de 3 députés français, membres du groupe d'amitié France-Égypte, venus justement pour défendre l'image du pays et de ses dirigeants. Philippe Folliot, député du Tarn et président de ce groupe.
Alors que les relations entre la France et l'Égypte sont des relations, j'allais dire, particulièrement positives, notamment sur un certain nombre de sujets essentiels, la lutte contre le terrorisme, par rapport aux différents contacts et contrats commerciaux ou de défense que nous avons avec l'Égypte, une telle décision, eh bien, était une décision que nous ne partageons pas et que nous condamnions.
Condamnation, ce n'est pas le terme utilisé par le Quai d'Orsay qui s'est contenté de regretter cette expulsion. Une grande inquiétude a désormais gagné les correspondants étrangers dans le pays. Il y a un mois, c'était le syndicat des journalistes égyptiens qui déplorait que le ministère de l'Intérieur soit, je cite, « entré en guerre contre la liberté de la presse ». L'Égypte est classée 159e sur 180 par Reporters sans frontières en termes de liberté accordée aux journalistes. C'est aussi le second pays après la Chine qui emprisonne le plus ses journalistes, avec 29 journalistes en prison actuellement, dont Mahmoud Chakwan, photoreporter, enjôlé depuis près de 3 ans sans qu'aucun procès n'ait été organisé.
François Humfer Katadji, qui est notre correspondant au Caire. En France, la pénurie de carburant menace toujours de paralyser le pays. Un tiers des stations-service sont à présent touchées. Le gouvernement ne veut pas céder. Les forces de l'ordre ont débloqué 11 dépôts pétroliers ce mercredi. Mais déjà, l'État puise dans ses réserves depuis 3 jours. La CGT, elle non plus, ne capitule pas. Elle espère même étendre le mouvement. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Tara.
Après les 6 raffineries sur 8 qui sont bloquées, après les dockers, après les militants de la SNCF et de la RATP, eh bien voilà que la centrale syndicale veut mobiliser les salariés des centrales nucléaires. Où en est-on ce soir sur ce front précis du bras de fer, David ?
Pour l'instant, seule la centrale de Nogent-sur-Seine va arrêter progressivement son réacteur à partir de 21h. Mais ça n'entraînera pas de changement dans la consommation électrique du pays. Le réseau électrique est le même pour toute l'Europe et pour toutes les centrales fonctionnent sur un système de maillage, c'est-à-dire qu'elles équilibrent leur production en fonction des autres. La France, elle, compte 19 centrales nucléaires sur son territoire. L'arrêt progressif du réacteur de Nogent-sur-Seine ne devrait donc pas provoquer de coupure de courant chez les particuliers, puisque les autres sites vont automatiquement adapter leur production d'électricité. Pour qu'il y ait une coupure de courant générale, il faudrait que toutes les centrales du pays s'arrêtent au même moment. C'est un scénario peu probable puisqu'à cause du maillage électrique, cela reviendrait à plonger dans le noir la France et les autres pays européens. De toute façon, les employés des centrales électriques sont obligés de respecter un seuil de sauvegarde qui maintient une production d'électricité minimale pour ne pas mettre en péril tout le réseau. Il existe néanmoins une manière d'obtenir une coupure de courant, c'est de stopper l'électricité lorsqu'elle passe au niveau des lignes électriques et des pylônes. Dans ce cas de figure, ce n'est pas de la faute des centrales, mais plutôt des grévistes à l'échelle locale qui bloquent volontairement le courant dans les postes électriques qui distribuent l'énergie. Cela provoque une coupure d'électricité de 5 à 10 minutes. Comme ça s'est passé à Nantes hier, le temps pour les agents de trouver un autre moyen d'acheminer le courant à destination.
Merci beaucoup David Ravier. Face à un syndicat qui amplifie, on l'a donc compris, la lutte, le Premier ministre reste droit dans ses bottes. Ce n'est pas la CGT qui fait la loi dans le pays, a lancé Manuel Valls tout à l'heure devant les députés. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Tara.
On avait pourtant cru comprendre ce matin qu'une petite fenêtre de négociation et d'apaisement s'ouvrait sur le front de la loi travail. L'information a émané du leader du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, qui a parlé de modifier peut-être l'article 2 de la loi El Khomri, article vivement critiqué, on le sait, par les syndicats, et que le député du Parti Socialiste a proposé de revoir. Mais finalement, Stéphane, il n'en sera rien, car Manuel Valls a sifflé la fin de ce rétropédalage.
Oui, c'était lors des questions au gouvernement tout à l'heure devant les députés. Manuel Valls leur a expliqué qu'il était hors de question de reculer.
Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue, mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Il n'y aura, mesdames et messieurs les députés, ni retrait du texte, ni remise en cause de l'article 2, car c'est le cœur de la philosophie du texte.
Quelques minutes plus tard, salle des quatre colonnes à l'Assemblée, c'est là où les députés viennent à la rencontre des journalistes. L'homme à l'origine de l'imbroglio, Bruno Le Roux, chef du groupe socialiste, tentait de rétropédaler tout en faisant du surplace et en voulant donner l'impression d'avancer.
Je suis en accord total avec le Premier ministre. Cela n'empêche pas de réfléchir aujourd'hui à la façon dont est écrit cet article 2, parce que je pense qu'il est possible d'élargir aujourd'hui la base de soutien à ce texte.
Voilà, il faut donc réfléchir à quand ce sera le moment. Seulement, pour le moment, c'est pas le moment, expliquait quelques minutes plus tard encore le député socialiste de Seine-et-Marne, Olivier Faure.
Pour le moment, nous sommes dans une situation où il y a un blocage qui est d'abord celui du pays. Et personne ne peut accepter l'idée de négocier à nouveau dans un moment où il y a une forme de pression, d'intimidation même, qui est exercée à l'encontre du pouvoir.
Alors, que s'est-il donc passé ? Deux hypothèses. Soit Bruno Le Roux s'est fendu d'une initiative personnelle avec le soutien d'un certain nombre de députés, et il a fait une faute, car on ne baisse pas la garde à la veille d'une journée d'action syndicale et d'un rapport de force où chacun va compter ses troupes. Soit, autre hypothèse, Bruno Le Roux est un poisson pilote de l'Élysée, chargé par François Hollande de laisser penser qu'il y a des marges de négociation par la suite, pour mieux isoler la CGT et laisser son mouvement s'essouffler, en attendant que la loi travail soit examinée par le Sénat. Clairement, on navigue en eau trouble, mais dans les deux cas, quoi qu'il arrive, le gouvernement ne peut pas céder, même la droite en convient, en l'occurrence le député Les Républicains de la Marne, Benoît Apparu.
Il y a un moment, dans un état de droit, on ne cède pas à la violence de la rue et on ne cède pas à la pression d'une minorité de manifestants qui bloquent le pays. Parce que sinon, on remet en cause les piliers de la construction même d'un État démocratique, on remet en cause l'autorité de l'État. Et je ne souhaite pas que la gauche soit au pouvoir, que la droite soit au pouvoir, qu'on remette à ce point en cause l'autorité de l'État.
On est donc dans un rapport de force très dur, avec des acteurs jusqu'au boutiste, mais au point où on en est condamné à être jusqu'au boutiste. On verra maintenant demain quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Si elle est forte, elle confortera les blocages. Si elle est faible, ça permettra peut-être de débloquer la situation.
Analyste inné, Stéphane Robert, merci. Un gouvernement qui ne cède pas à la pression de la rue, on l'a compris. Pression minoritaire, répètent pourtant les ministres en permanence. Un gouvernement qui travaille et donc qui regarde chaque mois avec inquiétude la très fameuse courbe du chômage. Le mois dernier, une fois n'est pas coutume, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi avait été assez forte. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir.
Alors fin du suspense avec vous. Je le disais, le mois dernier, en mars, des bons chiffres. Un chômage en baisse de 1,7% pour les chômeurs de catégorie A. Qu'en est-il du baromètre du mois d'avril?
Eh bien, 19 900 demandeurs de moins sur un mois, lesquels s'ajoutent aux 62 400 du mois de mars. Ça représente une décrue sensible du chômage de plus de 80 000 sur deux mois. Alors on parle bien des chômeurs de catégorie A sans aucune activité. Une baisse consécutive, ça compte. Les quelques baisses que l'on avait observées l'an dernier, il y en a eu 4, étaient beaucoup plus faibles et n'ont pas duré plus d'un mois. On assiste donc apparemment à des signes d'amélioration du marché de l'emploi. Et pour tous les âges, les jeunes, les aînés, les seniors, en même temps, c'est quand même assez rare, quand bien même ce sont surtout les jeunes qui en bénéficient le plus. Alors s'agit-il maintenant d'une amélioration d'ensemble du marché du travail? Pas complètement. On constate dans le même temps une hausse du nombre de demandeurs en catégorie B, ceux qui exercent une activité courte, une progression de 0,3%, ce qui laisse entendre qu'une partie des chômeurs de catégorie A a tout simplement glissé vers des emplois courts, CDD et intérimaires, beaucoup de petits boulots dans cette catégorie. Ce n'est pas tout, le ministère relève une hausse du nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas actualisé leur situation à Pôle emploi, plus de 55 000 tout de même en l'espace d'un mois, ce qui peut donner lieu à une lecture un peu moins optimiste sur la situation de l'emploi, même si, globalement, eh bien, les signes d'une amélioration semblent se confirmer.
Merci Jean-Marc Chardon. Encore une vidéo épouvantable relayée par l'association L214. Cette fois, il s'agit d'un élevage de plus de 200 000 poules à Chalin, dans l'Ain. Les conditions faites aux animaux sont telles que la société Matine, qui s'approvisionnait là-bas jusqu'à présent, a décidé de cesser tout simplement toute relation avec cet éleveur, Anne-Laure Chouin.
Des poules décharnées, déplumées, entassées dans des cages minuscules, au milieu de cadavres de volailles en état de décomposition avancée, des asticots, des poux, des accumulations de fientes au sol. J'arrête là la description de cette vidéo qui a choqué non seulement la marque Matine, propriété du groupe Avril, co-dirigée par le président de la FNSEA, Xavier Belin, mais aussi Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, ou encore Ségolène Royal, qui a demandé à la préfecture de l'Ain de mener une inspection sanitaire immédiate dans cette GAEC de la commune de Chalin. L'élevage était déjà dans le viseur des autorités. Il avait dû stopper son activité quelque temps, en mars dernier, suite à une inspection et une mise en demeure de la préfecture, avant de rouvrir peu après, un élevage qui est selon la marque Matine visité régulièrement, pourtant une fois par an au moins. Le distributeur y avait d'ailleurs déjà noté des dysfonctionnements, mais pas au niveau de ce qui est révélé dans la vidéo. De son côté, l'association antispéciste L214, du nom d'un article du Code rural reconnaissant les animaux comme êtres sensibles, porte plainte, elle, pour maltraitance sur animaux et demande à la préfecture la fermeture de l'élevage. Deux des vidéos de l'association avaient déjà mené à la fermeture de deux abattoirs. Et elles ont surtout remis en lumière les conditions d'abattage et d'élevage sordides et malheureusement ordinaires d'animaux largement achetés et consommés.
Merci Anne-Laure Chouin. Au Parlement européen ce soir, réunion pour juguler la crise du lait due à une surproduction européenne. Les ministres français et belges sont à l'initiative. Ils espèrent arrêter l'effondrement des cours du lait. Certains regrettent déjà la fin des quotas laitiers. Pour l'économiste Jean-Paul Simier, l'Europe est effectivement allée dans ce domaine à rebours des autres pays qui régulent justement leur marché.
On a choisi de faire rentrer l'agriculture dans la globalisation, dans la mondialisation, ou plus exactement dans la libéralisation de l'économie, alors que les marchés agricoles sont extrêmement compliqués à gérer. D'abord, il y a le climat, il y a les maladies animales, il y a énormément de facteurs qui font fluctuer ces marchés. Et donc, il est extrêmement dangereux, finalement, de laisser les marchés agricoles au seul jeu d'offre et de la demande. Et effectivement, par exemple, on voit depuis 4-5 ans, les Américains revenir sur la libéralisation de leurs marchés agricoles, en particulier dans leur dernière loi agricole, le Farm Bill, remette des instruments de gestion de marché et de soutien, notamment aux producteurs de lait, avec des couvertures de marge pour les producteurs de lait, complètement à contresens de la dynamique européenne qui, elle, continue à défaire les instruments de gestion de marché, même s'il y en a encore quelques-uns. Alors l'enjeu de la réunion à Bruxelles, c'est une réunion qui est organisée dans le cadre du Parlement européen, qui, lui, est favorable à une remontée des régulations agricoles en Europe, contrairement à la Commission qui, elle, reste sur une logique beaucoup plus libérale. C'est une réunion pour essayer d'examiner les instruments qui restent encore aujourd'hui pour éventuellement remonter les filets de sécurité, pour essayer de sortir finalement, faire remonter un peu les prix et sortir les producteurs de la situation catastrophique dans laquelle ils sont depuis plus d'un an. Et il y a aujourd'hui des articles qui sont dans la loi agricole européenne qui s'appelle l'organisation commune de marché, les articles 220, 221, 222, c'est très technique, mais qui peuvent permettre de faire ça. La France est sur cette ligne avec d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne. Tout dépendra aussi peut-être de la position allemande qui au départ était plutôt réticente, qui pourrait être amenée à évoluer. Donc on verra demain ce qu'il en est.
L'économiste Jean-Paul Simier avec Anne-Laure Chouin. Le temps orageux demain sur la moitié nord, beaucoup plus agréable sur la moitié sud. Premier Météo France à 22h. Prochain journal de la rédaction présenté par Stanislas Vazak.